RFI.
Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. À la une ce matin, une annonce qui ne fait pas l'unanimité à Kinshasa. Le ministre de la Justice de RDC entend conditionner l'obtention du certificat de nationalité à un avis favorable des agences de sécurité. Il estime que de trop nombreux étrangers en profitent aujourd'hui. Mais à Kinshasa, certains craignent que cela vienne alourdir encore plus un processus administratif déjà compliqué. Dans ce journal également, nous ferons le point sur la situation dans la région du nord-ouest du Cameroun. La société civile y a compté un mort par jour en moyenne depuis un mois et demi. Le président du Tchad, visé par une enquête préliminaire de la justice française, Mahamat Idriss Déby, soupçonné de détournement de fonds. Nous serons aussi à Madagascar pour parler des violences qui touchent les enfants albinos. Et à Abidjan pour notre dossier consacré ce matin à la pêche dans sa période annuelle de pause pour laisser au stock de poissons le temps de se régénérer. C'est donc la volonté de Constant Mutamba, le ministre de la Justice de RDC. Il entend renforcer les modalités d'obtention du certificat de nationalité, ce document qui sert notamment pour préparer un voyage ou pour postuler à certaines offres d'emploi et qui ne sera plus délivré sans un avis favorable des agences de sécurité congolaises. À Kinshasa, Pascal Moulekwa.
C'est une mesure pour lutter contre les infiltrations massives consistant à délivrer la pièce à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise, s'explique le ministre Constant Mutamba. S'il suffisait d'une simple requête accompagnée d'au moins 50 euros afin d'obtenir les certificats, le requérant doit désormais obtenir, d'après le ministre Constant Mutamba, l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement et de la Direction générale des migrations, ce qui pourrait rallonger les délais de traitement qui étaient auparavant de 2 semaines. Alors que ce document, déjà difficile à obtenir, est monnayé hors circuit bancaire par l'administration et sollicité notamment par des demandeurs d'emploi, les voyageurs et aussi par les candidats aux différentes élections. L'ANR et la Direction générale des migrations seront pourtant confrontés à un problème, l'existence d'une base de données, faute pour les pays de n'avoir pas recensé sa population depuis 40 ans. Depuis 2005, c'est la carte d'électeur et les passeports qui servent de pièces d'identité et donc seule pièce justifiant en partie la détention de la nationalité congolaise. La décision ministérielle est diversement reçue. Il y a ceux qui saluent cette mesure et qui dénoncent la détention de ces certificats par de non-congolais et souvent citoyens des pays frontaliers. Et ceux qui estiment qu'il aura comme conséquence les lourdeurs administratives, mais surtout l'amplification de la corruption dans la chaîne des décisions. Pascal Moulekwa, Kinshasa, RFI.
Et dans l'Est congolais, l'ONG Tear Fund assure que 2 de ses employés, jusqu'alors portés disparus, sont décédés. Dimanche, leur convoi a été attaqué près de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la RDC condamne l'attaque et note que depuis le début de l'année, plus de 170 incidents ont directement ciblé les travailleurs humanitaires. Un quotidien de violence également au Cameroun, dans la région du Nord-Ouest, avec environ un mort par jour en moyenne depuis un mois et demi. Le Nord-Ouest, région anglophone, frappée comme sa voisine du Sud-Ouest depuis 2017 par des violences entre les groupes armés séparatistes et les représentants des forces gouvernementales. Des violences dont les civils sont les premières victimes. Et si le début de l'année a été un peu plus calme, le Nord-Ouest connaît un regain de violence ces dernières semaines qui s'est encore confirmé ces derniers jours. Amélie Tulé.
Il y a une semaine, mercredi 26 juin, un engin explosif déclenché au passage d'un véhicule tue au moins 2 personnes dans le village d'Oshoum, près de Batibo. Le jeudi, un peu avant 18h, c'est dans Bamenda, la capitale régionale, qu'un homme d'affaires local est directement pris pour cible par des hommes armés à moto qui lui tirent dessus et l'abattent. Le dimanche, un jeune homme meurt à Bamboui, dans la commune de Touba, victime selon plusieurs sources d'une balle perdue lors d'un échange de tirs entre forces gouvernementales et combattants séparatistes. Et entre dimanche et lundi, plusieurs sources confirment que les forces gouvernementales ont intercepté et tué 2 séparatistes dont les corps ont été immolés. Une source sécuritaire déclare que ce sont les habitants qui ont incendié les cadavres. D'autres sources mettent en cause les forces gouvernementales. Une situation globalement alarmante selon Fonso, coordinateur de l'ONG Commune Sud, dont le décompte évalue à une 40 le nombre de morts en moins de 45 jours dans la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun. Selon cet acteur de la société civile locale, le deuxième trimestre aura été plus violent, plus meurtrier pour les civils que le premier cette année.
Amélie Tullet, le président du Tchad, visé par une enquête préliminaire de la justice française, enquête ouverte au début de l'année, mais dont nous avons eu la confirmation hier. Le parquet national financier soupçonne des détournements de fonds de la part de Mahamat Idriss Déby, dans son collimateur en particulier deux virements qui ont servi en 2021 et en 2023 à acheter des vêtements pour près d'un million d'euros. Une affaire révélée à la fin de l'année dernière par le site d'information Mediapart et pour lequel le chef de l'État tchadien a parlé de tapage médiatique absurde. Une décision qui redonne de l'espoir aux familles de Peter Oxam et Frédéric Portreiter, ces deux Sud-Africains détenus en Guinée équatoriale depuis maintenant un an et demi, condamnés pour trafic de drogue à 12 ans de prison, mais dont les proches estiment qu'ils sont en fait victimes d'un règlement de compte après la saisie par la justice sud-africaine de biens appartenant au vice-président équato-guinéen. Le groupe de travail sur les détentions arbitraires, qui émane du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vient d'estimer que leur détention était bien injustifiée. Romain Chanson.
Les libérer immédiatement serait la mesure appropriée, selon le groupe de travail sur la détention arbitraire. Leur incarcération est entachée de multiples violations des normes internationales relatives au droit à un procès équitable. Leur détention est arbitraire. François Nigrini, porte-parole de Peter Oxam, est soulagé par cet avis.
C'est une excellente décision pour les familles, c'est une avancée majeure. Ça confirme ce qu'on dit depuis le début. Ces deux hommes sont tout sauf des criminels ou des trafiquants de drogue, ils sont innocents.
They are so innocent you can't believe it.
Cet enthousiasme contraste avec l'esprit de l'avis rendu, car il ne statue pas sur l'innocence des Sud-Africains ni ne conclut à une prise d'otage en raison d'un chantage politique, comme affirmé par les familles. De plus, cet avis est non contraignant, mais il aura des conséquences, espère François Nigrini.
Cette décision de l'ONU sur le pays et sur ses dirigeants va leur porter un coup très fort. Ils vont devoir rectifier le tir, sinon elle va avoir un impact sur l'économie de la Guinée équatoriale et les investisseurs.
Cette affaire ne semble pas inquiéter le pouvoir équato-guinéen qui n'a pas collaboré avec le groupe de travail malgré ses demandes. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
RFI, 7h37 à Bangui, où des pluies sous forme d'orages sont encore prévues aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et cela ne devrait donc pas arranger la situation de la capitale centrafricaine, où les fortes précipitations de ces derniers mois continuent de faire sortir Lubangui de son lit. Des inondations aux conséquences dramatiques, puisqu'on compte à Bangui depuis le mois d'avril une dizaine de morts et une centaine d'habitations qui se sont écroulées. Un reportage de Rolf Steff Domielleux.
Voilà. Rassemblés à quelques mètres de ce ravin rempli d'eau et de déchets, Évariste Passé et sa famille sont sous le choc. Le regard impuissant, Évariste a tout perdu dans sa maison qui s'est effondrée.
Tout ce que j'ai pris des années pour construire est complètement parti en quelques minutes de pluie. Moi et ma famille sommes sans assistance, exposés à tout type de maladies et de souffrances.
Sandra, l'une des victimes rencontrées, impute ces catastrophes à l'incivisme de certains habitants, au changement climatique, mais aussi au manque d'urbanisation de ce quartier marécageux.
La plupart des habitants construisent des maisons en argile de manière très anarchique sur des canalisations et n'importe où, sans expertise. Des tonnes de déchets sont déversés dans les ruelles et malgré les multiples cas de malheurs, il n'y a jamais eu de solution.
Pour limiter les dégâts, des groupes de volontaires se sont constitués dans ces quartiers riverains. Félicien en fait partie.
Après ces multiples inondations, nous avons décidé de sensibiliser les populations sur l'importance de la prévention. Pour éviter que le secteur soit à nouveau inondé, chacun doit avoir une gestion saine de son environnement. Le gouvernement doit aussi penser à une urbanisation d'urgence.
Alors que d'autres pluies torrentielles sont annoncées dans les prochains jours, les autorités se mobilisent pour mettre en place une politique d'urbanisation rigoureuse dans ces quartiers. Rolf Estep Domialeux, Bangui, RFI.
C'est un phénomène que le sud-est de la Grande-Île ne connaissait pas ces dernières années, ou alors de manière marginale. À Madagascar, les Nations Unies disent avoir compté depuis novembre dernier une dizaine de jeunes albinos enlevés, certains violentés, violés, voire tués. Les albinos qui font l'objet de nombreux fantasmes en raison de la différence de pigmentation de leur peau. À Antananarive, la correspondance de Sarah Teto.
Leur différence physique nourrit des superstitions des plus dangereuses. On prêterait ainsi aux yeux des enfants atteints d'albinisme des pouvoirs magiques permettant de repérer même dans le noir des gisements de minerais précieux. C'est en tout cas ce qu'ont confié aux enquêteurs certains des ravisseurs arrêtés le mois passé dans le district de Mananzar après avoir exécuté l'enfant qu'ils avaient kidnappé et pour lequel ils n'avaient pas trouvé d'acquéreur. Sabine Laubert est la chef du bureau des droits humains sur l'île.
Au sud-est de Madagascar, nous croyons que ce sont des croyances néfastes et une augmentation de la crise humanitaire qui a aussi contribué à augmenter les attaques.
Dans l'urgence, les autorités essaient de placer en sécurité les enfants pris pour cible dans des centres ou des orphelinats qui acceptent de les accueillir. Une solution toutefois difficilement tenable sur la durée. Sur le continent, chez les pays voisins ayant subi des situations similaires, des stratégies nationales de lutte ont été menées. Les résultats sont positifs et pourraient bien être pris comme modèle.
Ce qui a bien fonctionné est baisser la violence en Afrique de l'Est sans un cadre complet pour assurer la sécurité d'une personne atteinte d'albinisme et leur famille et leur communauté, accès à l'éducation, accès à la santé et assurer l'emploi.
Des stratégies au long cours, mais nécessaires pour enrayer ce phénomène dramatique. Selon le Bureau des droits de l'homme, Madagascar serait désormais le pays dans lequel le taux d'agression contre les personnes atteintes d'albinisme est le plus élevé au monde. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et puis avant de retrouver Nathalie Amar, dans 3 minutes, notre dossier nous emmène ce matin en Côte d'Ivoire, un pays qui laisse un peu de répit à ses poissons depuis cette semaine, période de repos biologique pour permettre au stock de poissons de se reconstituer. 1 mois pour la pêche artisanale, 2 mois pour la semi-industrielle et la pêche industrielle. Et cette année, cela concerne aussi certains plans d'eau douce. Et alors que la Côte d'Ivoire reste très dépendante des importations de poissons, à Abidjan, les pêcheurs ont visiblement bien conscience de l'intérêt de cette fermeture de la pêche. Reportage de Binta Diagne.
Au quai de pêche de Blokos, l'heure est au rangement. Certains pêcheurs profitent de ce temps calme pour fabriquer des filets. D'autres, comme Jean, rafistolent leur pirogue.
Avant, on partait, on ne dirait pas qu'on gagnait assez de poissons. Quoi. Mais maintenant, c'est des maigres. Ben, on a remarqué qu'il y a certaines espèces plutôt qui ont disparu. Surtout les capes rouges, les capes blanches qui disparaissent.
La production nationale de poissons a baissé de près de 34% depuis 2016. Pour reconstituer ses stocks, la Côte d'Ivoire observe pour la seconde fois un arrêt périodique de la pêche. Cette mesure coïncide avec la période des pluies durant laquelle les pêcheurs ralentissent déjà leurs activités, comme l'explique Ouria.
Non, pêche par période. Après la pluie, seulement les poissons viennent. Après les 3 mois, 4 mois, on stocke. On fait les autres pêches.
Il faut donc trouver d'autres activités pour s'occuper. Ouria ramasse les déchets plastiques sur les bords de la lagune. Hippolyte, la trentaine, retourne travailler dans un garage automobile.
Quand je suis un mécanicien, voilà, donc souvent, quand la pêche donne, je stoppe un peu pour venir faire la pêche. Mais quand ça ne va pas, je reprends mon boulot.
Le gouvernement a mis en place un fonds de 100 millions de francs CFA pour accompagner les pêcheurs et les mareyeurs affectés par cette interdiction saisonnière. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et cette année, la fermeture des pêches a été étendue à certains plans d'eau douce de la Côte d'Ivoire. Et durant cette période de fermeture, des experts vont procéder à l'empoisonnement des eaux, nous explique le colonel Alain Kodjo, conseiller technique au ministère des Ressources halieutiques.
Nous avons choisi ces plans d'eau parce que l'ensemble de ces plans d'eau font l'objet d'une surexploitation. Et le potentiel de production, surtout des eaux continentales, d'après les chercheurs, s'élève autour de 90 000 tonnes. Mais aujourd'hui, les débats communs sont en deçà de 30 000 tonnes. Donc c'est une nécessité pour nous d'intervenir pour inverser les tendances. L'empoisonnement concerne, disons, les eaux intérieures. Il s'agit des lacs qui ont été impactés par moment à cause des problèmes de pollution. Donc un repeuplement s'impose. Et donc ce repeuplement va cibler une espèce qui a une croissance très rapide, qui est le tilapia. Et puis accessoirement, le macharon qui est beaucoup prisé par, disons, les populations. Parce qu'une fois qu'il y a un empoisonnement, il faut prendre des mesures conservatoires pour arrêter la pêche, pour que les poissons empoisonnés, disons, s'habituent à leur milieu et commencent également à se reproduire.
Le colonel Alain Kodjo du ministère ivoirien des Ressources halieutiques à Abidjan, où il est maintenant 6h44, 2 heures de plus ici à Paris. Et vous êtes avec Nathalie Amar pour la suite des RFI Matin.